TF5, faites passer
allez,
à tout le monde.
C'est parti.
On est revenu, ce n'est pas une censure de ce que j'étais en train de dire, enfin j'espère.
C'est très drôle. Alors c'est la septième hebdo Étienne, on n'a jamais eu de soucis.
C'est peut-être les avocats des influenceurs dont j'étais en train de parler sans les nommer.
On va rappeler qu'en début de stream tout à l'heure, il y a eu Malo du haut de ses 6 ans qui est venu chercher des affaires derrière Mathieu le réalisateur et qui a tiré la prise électrique. Donc ça nous a fait rire, d'autant que c'était en début de stream. Et là, c'est Mathieu, par un geste malencontreux, qui a touché le fil et la prise était mal... Mais non, Mathieu, t'excuses pas. La prise était mal enfoncée. Donc on a eu à nouveau une coupure. C'est drôle parce qu'on a commencé par parler de sobriété énergétique et des questions énergétiques en début de stream.
Et on n'arrête pas de couper.
On n'arrête pas de débrancher. Donc on va dire que c'est notre participation à nous, à la sobriété énergétique. Ouais. Du coup, Mickaël a profité pour s'absenter quelques minutes. J'allais te balancer, Mickaël.
Je voulais juste parce que j'ai été coupé.
T'as été coupé, littéralement coupé.
Littéralement coupé. Non, c'est vrai que moi j'en ai ras-le-bol. J'ai été le premier à dire au tout début de ces histoires, laissez la justice faire son travail, comme dans la Cité de la Peur. Laissons la justice faire son travail. Mais il est où le travail de la justice? Il y a des mecs qui étaient dans la sauce. Maintenant, il y a 6-7 ans.
Il n'est pas là.
On n'a pas de réponse. On a l'impression que les mecs
parce
s'en
que pour
sortent.
Ceux qui nous rejoignent, Jérôme parlait du monde des youtubeurs, des streamers,
ouais, des influenceurs en général.
Des influenceurs où il y a eu régulièrement des affaires de ce type, voilà.
Et des affaires graves.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que Jérôme, mais moi je savais pas, me dit en fait derrière il se passe rien.
Mais rien.
Les gars, puisqu'on parle d'hommes, font profil bas pendant quelques semaines.
Reviennent. Et il y en a qui redémarrent.
Et ça, moi, je savais pas ça.
Il y en a qui redémarrent, tranquille.
Moi, je pensais qu'il y avait eu des sauces.
Et
que les
comme
gens partis,
ils ont
quoi.
Toujours une communauté qui les soutient, qui ne veulent pas croire les victimes, et même qui insultent les victimes derrière, etc., les mecs reviennent en force. Et c'est des héros, même pour
Après,
certains.
Après, par rapport à, en gros, quels effets ça peut avoir vraiment malgré tout, il y a eu un récit médiatique énorme et c'est un débat qu'on a ce soir, qui a sa place dans les médias. Il y a des affaires, il y a des personnes qui, d'un coup, qui tombent parce qu'en fait, quelque chose qui passait jusqu'ici ne passe plus et c'est très bien et ça arrive. Je pense qu'il faut aussi vraiment mesurer les effets que ça a qui ne sont pas connus médiatiquement. C'est-à-dire, dans les entreprises ou des services RH par exemple peuvent prendre des mesures de formation ou d'écoute des personnes qui ont eu du problème de harcèlement. C'est pas forcément des cas médiatiques à chaque fois, il y a plein d'affaires médiatiques, il y a plein de secteurs professionnels qui ont eu leur MeToo et tout ça, mais il y a aussi plein de choses que je pense qu'on ne sait pas. Mais à la lumière de tout ce qu'on entend, je pense qu'il y a une évolution de la société qu'on ne peut pas percevoir et qui n'existe pas forcément dans les médias ou de manière publique, mais qui font qu'il y a peut-être des entreprises plus ou moins grandes et des secteurs où en fait les choses se passent mieux parce qu'il y a des choses publiques qui se passent. Sur les célébrités, là MeToo c'était beaucoup sur les célébrités, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses
bien
qui
sûr.
Se passent.
Et je suis d'accord avec toi, on a crevé un immense abcès qui gonflait depuis des centaines d'années, mais le problème, c'est que si les coupables sont pas punis, là c'est les principes même de la justice, les victimes et les victimes sont pas écoutées, les mecs s'en sortent, quel message ça envoie aussi? Donc on arrive à une dualité. Il y a un message qui commence à passer que le consentement, bah, c'est sacré et il s'applique à tout le monde et il n'y a pas de dérogation à ça. Mais en même temps, on envoie un message que, bon, en vrai, tu peux t'en sortir.
C'est ça, en fait, aussi, on parle des milieux de pouvoir, là. Mmh. On parle de la politique, on parle des influenceurs, des gens qui ont une audience qui véhiculent, parfois même malgré eux, et en conscience aussi, quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, ils incarnent quelque chose de plus grand qu'eux. Quand on incarne l'État, quand on incarne le gouvernement, il y a ce qui relève de la justice, qui relève de qu'est-ce que la société décide de faire d'un individu, quelle place on lui laisse, et c'est des débats super intéressants aussi que j'ai hâte d'avoir dans l'espace public, que de dire comment est-ce qu'on fait payer un prix juste, même s'il sera jamais totalement juste, comment est-ce qu'on répare cette question de la réparation, qu'est-ce qui paraît juste aux victimes comme peine apportée, comment est-ce qu'on pourrait peut-être inclure les victimes aussi dans ce processus-là, comment une fois que cette peine est payée, on réintroduit la personne, c'est le principe de l'état de droit, et c'est là où la justice est belle et où elle pose les questions très intéressantes des âmes grises, comment est-ce que la société, elle se dit pas juste, bon, bah, y a des gens qui nous arrangent pas, on les met en dehors, et puis bah, on s'en occupe jamais. Non, ce qui est bien, c'est de dire quelle peine on fait payer à ces personnes-là, comment est-ce que, sans jamais oublier, on pose la question du pardon et on refait société ensemble avec des gens avec qui on ne partage pas parfois les valeurs et avec, parfois on condamne certains actes. C'est tous les débats qu'on a eus avec la peine de mort. C'est vraiment intéressant de relire en fait ces débats-là et de regarder à quel point il y a des arguments qui pouvaient, évidemment sur des choses un peu différentes, mais avoir la même teneur. Mais je voulais vous dire ça parce que ça, c'est un débat que j'ai hâte qu'on ait. Mais en même temps, quand on parle de représentants politiques ou de représentants du milieu artistique, etc., on porte quelque chose de plus grand que nous. Et donc, quel message on va envoyer d'un point de vue de par exemple, je ne sais pas, quand ce gouvernement-là, il y a un nombre de personnes qui ont été, de ministres qui sont mis en examen, ou enfin, en tout cas, qui potentiellement ont été des violeurs, quel message on va envoyer aussi aux Français et aux Français sur la confiance qu'on doit accorder à ces politiques-là. Et du coup, c'est pour ça que les retraits des fonctions, c'est pour ça qu'ils le font. C'est pour ça que sous la pression, ils se disent, bah, en fait, à un moment donné, est-ce que ça ne va pas juste aussi desservir les idées que je veux porter au sein de mon parti ? Et pourquoi est-ce qu'on voit ces débats, notamment, surtout dans les... D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que c'est dans les partis de gauche. Le gouvernement ne s'en inquiète absolument pas du fait qu'il y ait plein de responsables politiques qui soient, entre guillemets, comme on dit, dans la sauce. Là, ce qui est au moins est salutaire, c'est que même si ça déchire leur parti, les partis de gauche, parce qu'ils portent ces valeurs d'égalité homme-femme,
et qu'ils ont un débat assez ouvert. C'est dans les médias, c'est dans.
Poser la question qui c'était très fratricide, c'est très intense, c'est très difficile.
Par exemple, ces cellules n'existent pas dans les autres partis.
Voilà.
Ou alors il y a des choses qui se passent dont on n'a pas idée et conscience, mais
c'est ça, qui sont réglées en interne.
Ouais. Hein, et ce que tu dis,
sans débat public.
Ouais, c'est ça. Sans débat public. Mais là, on a quand même aussi un gouvernement et un chef de l'État, donc Emmanuel Macron, qui lui va toujours parler de la justice avant tout. C'est par rapport à ce qu'on disait sur le récit médiatique de MeToo et la dénonciation qu'il n'est pas le temps de la justice, mais qu'il faut écouter avec attention. On a quand même Macron qui dit régulièrement « Non, c'est la justice, présomption d'innocence
oui, ». Oui.
C'est ça, c'est sa défense surtout tout le temps. Et ça pose la question de l'exemplarité qui est encore... Enfin, il y a quand même beaucoup de chemin.
C'est qu'un changement de ligne, parce que la ligne avant, la jurisprudence avant, c'était tout ministre mis en examen devait démissionner.
Oui, c'est ça.
François Bayrou, par exemple, qui était garde des Sceaux, a dû, dû quitter ses fonctions.
Ouais,
mais Macron a changé d'avis. Aujourd'hui, il dit « Ah ben, tant qu'il n'y a pas condamnation, présomption d'innocence. »
C'est pour ça qu'on est qu'au début. Là-dessus. C'est que même... quand je te rejoins quand tu dis que OK, il y a des dérives, mais c'est vraiment que... symboliquement par rapport à tout ce qui est dénoncé, bah, en fait ça fait partie de, voilà, du système de dénonciation qui est parfois des choses qui se passent mal, mais qu'on est vraiment au début d'une déconstruction mais qui est fondamentale et que, comment dire, enfin, je ne sais pas si on parlera des 10 ans de MeToo dans 5 ans, tu vois, c'est quelque chose, mais je suis, en tout cas je suis persuadé,
je pense et je l'espère,
mais que les obstacles sont quand même massifs. Enfin, je pense à Donald Trump qui était président des États-Unis il n'y a pas si longtemps, les États-Unis d'où viennent MeToo en 2017. Donald Trump, alors bon, il y a des tas de problèmes avec Donald Trump,
mais notamment celui-ci.
Mais son rapport aux femmes à Donald Trump, et en fait c'était le président, quoi. C'est-à-dire symboliquement, c'est la majorité a mis au pouvoir quelqu'un qui représente le pays dans le monde et qui a un rapport aux femmes extrêmement problématique
quoi.
Et là on parle des États-Unis, de la France et tout. Ce qui se passe dans d'autres pays. Enfin, voilà, on est. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe.
L'Iran aujourd'hui, par exemple.
Oui, mais non, mais voilà.
Et bel enchaînement.
Oh, la transition qui arrive. Mais...
Non, on va en parler ce soir parce que là aussi.
Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même il y a un espoir qui est né il y a 5 ans et qu'il faut faut l'entretenir.
Est-ce que c'est tout à l'heure on parlait de tu parlais d'un fossé générationnel que tu as vu au Monde, par exemple, sur ces questions.
Ouais.
Nous, en tant que vieux du plateau, tous les deux, ben, on constate que nous, garçons, on a été élevés dans des valeurs qui amorçaient un peu ce débat, mais qui étaient quand même loin de
on était pris entre les deux. On était pris entre deux cultures.
Est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est compliqué pour un homme, pour un garçon aujourd'hui de se reconstruire, de se déconstruire, de penser différemment son rapport aux femmes. Est-ce que moi, par exemple, dans le chat, parfois je vois des garçons qui me disent, moi je sais plus comment comporter par rapport aux femmes, et du coup je ne fais plus rien, c'est-à-dire je n'ose plus discuter, je n'ose plus aller vers, donc des garçons qui sont seuls et qui en souffrent. Et qui nous disent oui, mais alors en partageant ces valeurs, hein, en totalement d'ailleurs, en les intériorisant très très fort, mais à tel point que du coup ils ne savent pas quelles sont les nouvelles règles du jeu amoureux. Parce
Poser des questions à vos amis, en fait, vraiment, c'est aussi ayez cette discussion, n'ayez pas peur d'avoir cette discussion, c'est hyper important de se former, de lire, de discuter aussi avec vos amis pour dire, après ça reste quand même, enfin le principe du consentement, je pense qu'on n'a pas besoin d'un bac plus 12 pour comprendre que non c'est non.
Bien sûr. Voilà.
Mais au-delà de ça, je peux comprendre que ce soit, enfin,
la drague,
que ce soit
par
pas
exemple,
évident.
Là, alors le consentement c'est une évidence, mais par exemple la notion de drague, de séduction, drague lourde, drague ou pas du tout d'ailleurs, bon ben je pense qu'il y a plein d'hommes et de garçons aujourd'hui qui bien intentionnés ne savent plus se positionner du tout.
Bah, quand on parle à des filles dans la rue quand il est tard le soir, non c'est pas de la drague. Voilà. Je veux dire, quand on envoie des signaux, enfin je veux dire, on comprend. Quand on envoie un signal que ça s'appelle l'intelligence.
Je veux bien avoir de l'empathie pour des garçons qui ont des problèmes de timidité et que c'est compliqué aujourd'hui, mais est-ce qu'on a de l'empathie aussi pour le nombre innombrable de femmes qui sont écrasées par la prédation de l'homme et dans des comportements même parfois soft au quotidien, des petits gestes. Ça, on n'en parle pas non plus. On parle toujours du garçon timide qui sait plus.
Encore une fois, on parle de l'homme, on remet la position de l'homme, et tu vois, nous, c'est la même chose aussi dans le sens où.
Non, mais je le vois dans le chat,
je comprends.
Mais je dis pas que c'est plus important, au contraire. Le débat.
Non, mais je parle d'un point de vue général. Mais en tout cas, super intéressant cette question-là, et j'ai envie de dire, osez poser la question à vos femmes de vos vies que.
J'aime bien ta réponse.
Qui vous font, qui vous faites confiance et vous vous sentez en sécurité pour le faire. Mais ça, c'est aussi compliqué, genre. Enfin, faut aussi se rendre compte que pour nous, en tant que femmes, ça crée un truc où dans l'espace public, on se met dans un mood de fuir le regard, enfin de d'être toujours
c'est
en méfiance. On est toujours en méfiance. On est toujours sur ce truc de qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir. Moi, dès que je passe à côté d'un homme partir d'une certaine heure dans la rue, vraiment, je me mets sur mes gardes. On a tous des petits tips qu'on se donne, qu'on a tellement intériorisé, que de mettre nos écouteurs, même sans musique, de marcher plus vite, d'avoir une clé dans la main pour au cas où pouvoir se défendre. Enfin, c'est devenu on a tellement intériorisé ça que ça devient normal. Et c'est là où c'est très grave.
Et c'est là où c'est grave. Des messages, mais
Et on est en train, enfin, le regard des hommes s'éveille aux autres regards des hommes et de la prédation.
Complètement, ça c'est hyper important.
Alors, mais c'est
tout ce que vient de dire Camille, je pense qu'il y a plein d'hommes aujourd'hui
qui
n'en ont pas conscience encore.
C'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Je pense que le débat, il faut vraiment qu'on arrive à se parler.
Mais sachant qu'il y a malheureusement aussi une réaction masculiniste très intense, avec aussi des mecs qui supportent pas aussi cette histoire,
cette remise en question,
et qui sont qui font des harcèlements sur les réseaux sociaux, enfin des raids, des choses comme ça, et qui malheureusement, c'est pour ça que je dis qu'il y a un espoir qu'il faut préserver, et t'as raison sur la discussion, mais malheureusement, c'est bien que les garçons dans ton chat qui se posent la question de la timidité, et je pense que ton chat est un lieu gentil d'internet, parce que t'es quelqu'un de gentil, on est entre gens gentils, et que voilà. Mais il y a quand même des, je pense, en gros, il y a quand même des tas d'endroits où ça se passe pas du tout comme ça, et la première réaction de tout un tas de groupes masculins, dans plein de pays, c'est d'être très violent envers les femmes qui parce qu'ils sont pas d'accord, et du coup c'est ça aussi dans cette histoire de MeToo et de nouvel apprentissage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens encore qui refusent et qui vont se permettre encore des comportements horribles et qui vont dire les femmes elles nous font chier et qui vont être qui vont taper sur les
féministes.
Tout à l'heure
tu disais est-ce que dans 5 ans on parlera des 10 ans de MeToo, et je crains que oui, c'est-à-dire que là il y a un mouvement qui est initié. Je crois que les progrès vont être lents, très très lents, au niveau d'un pays, au niveau de la planète. Tu parles dans certains pays où la situation faite aux femmes est encore plus grave que chez nous. Et je pense que dans 10 ans, et peut-être que dans 15 ans, on aura encore ce débat. Il y aura eu des progrès, mais je pense je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que ça va être très lent, non ?
Ouais, je pense.
Camille ?
Tout dépend de nous.
Non ?
Tout dépend de nous. C'est comme quand on parle du monde de demain, tout ça, ça dépend de ce qu'on en fait aujourd'hui. En vrai, si on dit tous OK, ça devient un sujet prioritaire sur lequel on décide vraiment sincèrement de se questionner, de se déconstruire, de faire des efforts, de reconstruire une autre vision de la société. Et je dis pas que ce sera facile, ça demande du travail, ça c'est sûr, mais la vitesse à laquelle on va faire ce travail, ça dépend de nous en fait. Et c'est pas la société, c'est pas un truc comme ça en dehors qui évolue de manière indépendante, on en fait partie intégrante.
Je pense que l'accélérateur des choses aussi, c'est qu'enfin on a libéré effectivement la parole des victimes, on n'y est pas encore complètement, mais c'était le bouchon essentiel en fait de tout ce problème.
Et la parole des femmes en général d'ailleurs.
Oui, la parole des femmes.
Une petite partie, parce que vous imaginez pas combien se taisent.
Mais bien
sûr, elles
se taisent encore, et puis on pourrait parler des problèmes de prescription. Prescription. Et je parle même pas de justice, de prescription dans la tête des gens. Dans les familles, les secrets de famille.
Sur le silence des femmes, les femmes qui n'osent pas parler malgré l'affaire PPDA, elle est elle est au cœur de ça. C'est-à-dire que l'affaire PPDA et aujourd'hui les dizaines et les dizaines et les dizaines de femmes qui témoignent, le livre de la journaliste anciennement de Vinc. Effectivement, là, elle dit que quand elle a commencé son livre, elle avait 40 à 50 témoignages de femmes qui se disaient avoir été agressées ou violées par PDA. Et elle a, du moment où elle arrivait à la fin de son livre, elle était à 90 témoignages qu'elle n'avait pas pu tout mettre. Et donc, la plupart de ces femmes, qui parfois en ont parlé 20, 30 ans après, ont expliqué que, en fait, elles se sont tues parce que la société n'était pas prête à les entendre, que leur propre famille n'était pas prête à les
elles
entendre.
Elles se sont construites autour
donc,
de
ce que
ça.
Tu dis est juste. Ouais. Ce que tu dis est juste.
Et enfin bon. Ouais, non, je pense qu'on a du boulot. Il y a eu un gros coup d'accélérateur. Il ne faudrait pas perdre l'élan. Mmh. J'ai très peur, effectivement, quand je vois la contre-réaction d'un nouveau machisme.
Ah, que cet élan soit un peu perdu.
Voilà. Et ça fait un petit peu peur. Et de voir, parce que moi, je suis quand même beaucoup Twitter, même si c'est très décrié, mais c'est quand même, on va dire, une ligne de combat intéressante. Et de voir à quelle vitesse, maintenant, les victimes qui prennent la parole se font tirer dessus. Et on essaye d'étouffer leurs paroles. Et la présomption d'innocence pour les victimes, ça n'existe pas, hein, par contre. Hein. Tout de suite, elles sont coupables de raconter n'importe quoi. C'est des hystériques. C'est un mec célèbre. Tu veux te faire connaître pour ton livre.
Quelqu'un, enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire. Quelqu'un dans le chat vient de dire oui, mais alors PPDA est présumé innocent. J'entends la responsabilité, la question de la présomption d'innocence. D'abord, tu viens de rappeler que les présumées victimes, elles sont.
Elles sont aussi présumées
déjà. Et puis là, on parle de 90 témoignages d'un process de prédation qui était toujours le même. L'invitation aux 20h, l'invitation dans le bureau après, la secrétaire qui fermait la porte, les secrétaires qui s'en allaient, un truc répété à l'infini. Donc j'entends bien la question de la présomption d'innocence. Maintenant, il faut peut-être aussi écouter les femmes et les victimes.
Et surtout ce qu'on fait, en fait, là, il n'est pas en prison actuellement, on ne s'est pas substitué à la justice. Ce qui s'est passé, c'est que les femmes et les victimes s'organisent pour éviter d'autres victimes. C'est un comportement totalement humain. Imaginez un prédateur où il y a quelqu'un qui serait je sais pas, imaginez, on va prendre des animaux pour que ce soit complètement dépolitisé ce propos, juste pour voir. Imaginez, je sais pas, un troupeau de moutons où il y a un loup qui arrive, à un moment donné il revient toujours. Est-ce que ce serait pas de bon ton de s'organiser pour se dire attention, à un moment donné la justice fera son travail, mais je vous conseille de se protéger et d'essayer d'éliminer un prédateur pour éviter qu'il fasse des prochaines victimes, parce qu'on sait
à
quel point
impératif.
Ça peut être douloureux. C'est ça, en fait, c'est que les paroles des femmes se libèrent et s'organisent pour éviter que ça n'arrive à d'autres.
Quelqu'un me dit, la Makira, il faut arrêter de parler de femmes ou d'hommes, il faut parler du genre humain. Non, pas dans le sujet qu'on évoque. Les violences dont on parle, même si les violences des femmes vers les hommes existent. Hein,
mais non, elles existent, mais on parle d'un point de vue de statistiques.
Mais si on parle sur un plan statistique, si vous comparez ces deux phénomènes, ça n'a rien à voir.
Mais là,
si on parle de ce sujet, c'est parce que le sujet, il est là. Donc évidemment qu'on va distinguer hommes et femmes sur ce sujet, bien sûr. Quoi.
Et un dernier truc, parce que la présomption d'innocence, ça me fatigue, ça revient toujours. Faut pas oublier, je m'y connais pas en justice, donc je vais peut-être dire des conneries, mais pour moi, présomption d'innocence, il y a aussi présomption de culpabilité. Enfin, c'est juste, on a un prévenu. Ce que je veux dire, c'est pas parce que la personne est présomption d'innocence qu'elle est innocente. Si effectivement il y a plein d'accusations autour de cette personne, méfiance, comme tu disais.
Principe de précaution.
C'est le principe de précaution. Donc avant que la justice fasse même son travail. Après, la présomption d'innocence, c'est essentiel et j'y crois à fond.
C'est un principe de justice super important, mais c'est pour ne pas c'est avant qu'on condamne, en effet. Mais juste protéger, c'est quand même un réflexe vital.
Exactement.
Et pour revenir sur l'affaire PPDA, il y a quand même eu ce moment un peu fou de PPDA qui est allé chez Quotidien pour livrer sa version des faits. Oui, donc on est sur Quotidien, propriété du groupe TF1, c'était AMC, propriété de TF1.
Ouais.
On sait que forcément le scandale PPDA, ça touche TF1. TF1 va aussi se défendre parce que mine de rien tout ce qui s'est passé c'était dans les locaux de TF1, donc
qui était au courant, est-ce qu'on savait, est-ce qu'on aurait pu empêcher,
et la PPDA qui a des avocats et voilà, il est pas cancel en fait, même si évidemment il a toujours eu les moyens d'aller s'exprimer à la télé dans une émission de très grande audience, alors que les victimes elles sortent des bouquins, elles ont fait une émission dans Mediapart qui était très bien, mais du coup c'est pas pareil que de faire une émission sur Mediapart.
Elles ont pas la même exposition, tu as raison.
C'est pas la même chose. Alors là il y a des choses qui changent, mais il y a quand même dans les poids les mesures, il y a quand même un système de défense qui est pour les, en tout cas pour les gens puissants qui ont les moyens de tout ça, qui est quand même encore extrêmement là par rapport à des paroles de victimes. Et enfin voilà, je voulais juste ajouter.
J'aime bien la remarque de M3Sco dans le chat. Sam et aux invités, la question qui me traverse l'esprit actuellement est la suivante: pourquoi des gens sages comme vous doivent encore parler d'un sujet aussi élémentaire que celui-ci, parce qu'il n'est pas élémentaire pour tout le monde en fait.
Après je rejoins cette personne, j'espère qu'un jour on n'aura plus du tout ce sujet. J'espère, je vais être provoque, mais j'espère qu'un jour le féminisme n'aura plus aucune raison d'être.
Bien sûr.
Qu'il n'aura plus, on n'en aura
mais
plus
comme
besoin.
Les écolos, on serait très contents de qu'on
ah ben, en ait plus génial,
genre.
En fait,
c'est juste que bon, c'est un peu ambitieux.
Oui. Oui. Alors tiens, puisque tu te resserres, je vais te faire rire parce que tout à l'heure, il y a eu plein de messages parce que le chat a beau nous suivre sur les sujets sérieux, aime aussi plaisanter et tant mieux d'ailleurs. Et le chat a observé que pendant un long moment, il restait un macaron et un petit sandwich.
Oui.
Et donc le débat dans le chat.
Ça a traumatisé.
Je sais pas. Tu l'as vu aussi.
Ça a traumatisé le chat.
Qui va oser. On oublie, il y a des gens qui n'ont rien.
Et là, il reste un sandwich.
Qui va oser le prendre. Et du coup, c'était un grand suspense. Ah, ils osent plus le toucher. Il n'en reste plus qu'un. Et donc en fait,
c'est pour vous,
et là à un moment quelqu'un a dit: ah, le dernier macaron a disparu.
Oui.
Et donc merci de lui avoir fait un sort parce que personne n'osait le manger.
C'était moi.
Je me suis
dénoncé dans le chat par ailleurs.
Mais du coup vu qu'on a mangé le sucré là, tu vois, je pense que lui il va rester un petit moment.
Ouais.
Non.
Ouais, c'est vrai.
Non mais c'était drôle.
Si quelqu'un le veut, on peut parler librement.
C'est le syndrome du dernier petit four.
On peut voter. On peut voter.
Voilà. Personne n'ose le prendre.
Bah oui, évidemment.
C'est l'affaire de café. Je me débrouille.
Non.
Je me débrouille.
Je suis là.
Si ça explose, je t'appelle.
Ah ouais. On a déjà cassé deux fois le tri, donc c'est moi qui fais le café. Bon. Qu'est-ce que je peux vous amener? Un café, un thé, un verre?
Je veux bien. Non, mais un thé, mais ça va prendre du temps après, parce que du
non,
coup, on va
pas. Non, pas du tout.
Après, on peut en discuter.
Pas du tout.
Je veux bien un thé, ouais.
Un thé? Avec du sucre ou pas?
Non, merci.
Un thé vert menthe, ça va?
Ou ce que t'as?
Ou j'ai un autre.
Bah, je viens de reprendre du vin, donc.
Ouais.
Non, j'ai fini le macaron, j'ai fini le vin, moi. Bon.
Café. Ah ouais, vas-y.
Mais café à 23h, c'est des tarifs,
ouais,
non? Vous êtes des malades, hein.
Je comprends pas.
Alors, je vous laisse, les amis.
Café à 23h.
Peut-être que voulez-vous continuer un petit peu sur MeToo ou voulez-vous introduire l'Iran? Peut-être l'Iran. Alors, je lance le quatrième débat.
C'est un sujet facile.
Ouais, c'est vrai.
Sujet léger. En même temps, il est lié, hein. Il est lié au débat qu'on vient d'avoir. Iran, leur révolte, notre impuissance. Donc, je rappelle l'actu. Troisième semaine de manifestation après la mort de Mahsa Amini, donc la jeune femme, souvenez-vous, qui avait été arrêtée par la police des mœurs, parce qu'il y a une police des mœurs en Iran, pour un port du voile sur sa tête qui n'était pas jugé pas conforme, donc des mèches de cheveux qui dépassaient. Elle est morte après son arrestation. Début des manifestations, on est dans la troisième semaine, on est à la fin de la troisième semaine, on va rentrer dans la quatrième semaine la semaine prochaine. Répression, comme souvent en Iran, parce que c'est pas la première fois, à balles réelles. On parle de 1500 morts au moins, avec parfois de très jeunes femmes, des jeunes manifestantes. Hein, on parle de jeunes filles de 17 ans. J'ai cru voir une fille jeune fille de 15 ans. Et parfois des histoires sordides aussi sur les violences qui ont été faites à ces manifestantes. Donc on en est là. Et puis pourquoi j'ai mis notre impuissance? Parce que la semaine dernière, on a commencé à en parler. On s'est dit, bon, bah voilà, on est tous là à se dire que c'est triste. Que c'est impossible, que c'est en 2022, comment... Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyens français, occidentaux, ou alors notre pays, qu'est-ce qu'il peut faire, l'impuissance? Et puis j'ai aussi ce débat parce que cette semaine, il y a des actrices, des artistes, des actrices et des et des chanteuses françaises qui ont fait un clip de solidarité. Il y avait quasiment toutes les plus grands noms des actrices françaises et chanteuses, c'était assez étonnant d'ailleurs. C'est un avocat parisien qui a lancé cette initiative. Et donc, elles se sont mises en scène en coupant une mèche de leurs cheveux, hein, en référence à la mèche de cheveux qui dépassait du voile dont on vient de parler. Ouais. Et moi, j'étais très choqué par la violence des réactions qui étaient « Ah, mais alors, c'est de la mise en scène. Elles font ça pour se faire mousser, pour améliorer leur image. » Et puis surtout, et là, pour le coup, c'était un peu plus pertinent. C'est « Bah, à quoi bon? Ça sert à rien. C'est ridicule. » Donc voilà, ça, c'est le débat. Et maintenant, je vais faire les niveaux et je reviens.
À vous.
Waouh. Voilà, il pose ça là, il s'en va. Je pense que, alors, par rapport à ce sujet, Samuel et moi, dans des rédactions et tout ça, on a, comment dire, on a déjà un métier quotidien où en fait on peut parler de ce qui se passe et on peut exposer, on peut raconter, on peut, par ailleurs on n'a pas d'histoire de censure ici de l'État iranien, contrairement à ce qui se passe en Iran. Et de fait, par le métier journalistique, juste on, voilà, on décrit ce qui se passe, les policiers qui tirent à balles réelles. Je dis pas que ça change la condition des gens sur place, mais je dis que dans notre métier au quotidien, il y a quand même, on sait que on rencontre de quelque chose d'important, on sait toutes les horreurs que peuvent le régime iranien, et on sait que ça participe à une prise de conscience. Est-ce que ça change des choses? Je ne suis pas sûr. Moi, je sais que dans la rédaction, on essaye d'avoir les vidéos produites par les iraniennes, et parce qu'il y en a beaucoup, on en voit tout le temps sur les réseaux sociaux. On se dit qui les diffuse, mais aussi quelle est la sécurité des gens. Donc en fait, c'est vraiment une question professionnelle. Bon, mais ça, c'est le métier classique journalistique de faire le porte-voix de ce qui se passe. Est-ce que le fait qu'une rédaction française parle de ce qui se passe en Iran va améliorer les choses en Iran? C'est vrai que... Je ne pense pas. Heureusement que ça existe quand même, mais bon.
Il est toujours quand même plus dur de faire certaines choses. Là, je me mets encore dans une perspective historique. Autrefois, tout ça se passait dans l'impunité la plus totale. On braque quand même des projecteurs, c'est déjà quand même faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que les coupables sont punis et que les choses vont mieux et que...
Ou que les Iraniennes vont arrêter d'être persécutées.
Ou que les Iraniennes vont arrêter d'être persécutées, etc. Mais ça commence à se voir, tout ça. Ça devient dur... Enfin, je veux dire une phrase un peu cynique et qui ne se veut pas drôle, mais ça devient dur d'être une dictature. Parce que les gens regardent.
Il y en a beaucoup encore.
Mais il y en a encore beaucoup. Ouais. Oui, mais combien il y en avait autrefois qu'on ne disait même pas que c'était des dictatures et qui ont, notamment dans ces pays-là, disons-le, on ne voyait rien. Tout était caché, quoi. Donc, je ne dis pas que ce qui est fait, notamment par la presse, est suffisant, loin de là, mais tout petit projecteur... est important.
C'est pour ça que je rejoins Samuel quand il a trouvé choquant le fait qu'on critique les actrices et les artistes françaises qui ont... C'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter, qui faisaient des vidéos, c'était des garçons qui se coupaient les cheveux en mode « Ah, c'est bon, j'ai résolu le problème en Iran », et j'ai trouvé ça complètement déplacé. Et, enfin, je sais pas, un manque de respect sur la situation sur place, un manque de respect sur juste un essai de mobilisation, parce que par ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas l'impression que ça mobilise les foules en France. On sait tous qu'il se passe des choses horribles, mais je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir des manifs comme pour l'Ukraine.
Mais elles étaient justement, en fait, elles étaient assez peu suivies, quoi. Donc je pense que ce qu'elles ont fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire, ok, on va faire profiter notre audience à mesure de ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite. Et peut-être c'est de bon ton, en fait, j'entends peut-être le prochain débat qu'on aura, quand on parlait d'Elon Musk, qui lui n'a pas du tout l'ego. De se dire, enfin justement à l'ego de se dire, et pas du tout la modestie de se dire, moi je vais régler le conflit en Ukraine, il n'y a aucun souci, je vais faire en sorte que la Russie se retire. Là au moins on dit, évidemment qu'on ne va pas changer diplomatiquement en étant actrice la face du monde d'un point de vue diplomatique, mais en attendant ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser notre notoriété pour dire, on s'attaque à ce symbole de la mèche de cheveux, pour dire qu'on se bat, qu'on soutient, qu'on est là du côté des femmes iraniennes, mais aussi que du coup on se bat pour les questions d'égalité hommes-femmes ici chez nous en France. Et en fait c'est l'idée de la liberté des femmes de choisir partout, tout le temps, partout à travers le monde et en tout temps. Et du coup je pense que ça dit quelque chose d'aussi un peu plus fort. Ça permet, j'espère peut-être, dès qu'il y aura des manifestations dans le RIM, on peut aussi se poser la question. En soi, une marche, peut-être, ok, une manifestation, ça peut être plus grand comme engagement que de se couper une mèche de cheveux. Mais en vrai, qu'est-ce que ça va changer aussi?
Que fait une manifestation,
en fait, à un moment donné,
les choses qui se passent dans
d'autres pays. C'est de la même manière, pour moi, ça repose le débat de se dire, on ne se bat pas uniquement pour ce qu'on peut gagner, mais on se bat pour ce qui est juste, au nom de la dignité. Et donc, en fait, on est du côté de ces femmes qui se battent et de ce peuple qui se bat pour sa liberté, de la même manière qu'on sera et qu'on est aussi du côté des femmes qui se battent aujourd'hui pour encore avoir des droits en France.
Bon, alors du coup, j'ai rien tout raté.
C'est nul. Alors, parler d'Elon Musk.
Mais non, mais j'essaie de vous écouter et j'ai entendu ce que tu disais sur le fait que déjà, nous, les journalistes, on en parlait, donc c'était une première chose.
Après, toi, la question, c'était notre impuissance.
Oui.
Enfin, je sais pas, à France Info, je sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai que t'as aussi une impuissance de base d'un journaliste qui oui. est, ok, j'ai parlé de ce qui va pas et ok, j'ai parlé de...
En fait, c'est très dérangeant. Moi, je sais que ça me, au quotidien, je me pose cette question. Je me dis, voilà, je compatis, ouais. C'est même émouvant. Moi, j'ai lu des choses dans la presse écrite qui te font pleurer, quoi. De dire, mais, et surtout de se dire, bon, ben, et là, ouais. Et donc, j'entendais parler de ce qu'on pouvait faire, nous. J'entendais parler de marche, par exemple, celle d'être aux côtés, d'envoyer des messages, c'est ça?
Ouais, en fait, c'est ça, de à la fois relayer pour qu'on sache ce qui se passe là-bas et qu'on sorte de cette impunité, très important. Peut-être qu'on pourrait penser à des sanctions diplomatiques aussi de la France, et ça arrivera uniquement, qui pourrait faire pression sur le régime, ça arrivera uniquement s'il y a un vrai mouvement de population et que le gouvernement sent que c'est un sujet qui fait société ici. Mais ce que je disais, surtout pour moi, ce que ça dit, ce débat-là, en fait, c'est qu'on ne se bat pas uniquement, et je le répète, parce que c'est vraiment l'idée la plus importante pour moi, c'est qu'on ne se bat pas uniquement pour ce qu'on peut gagner, mais pour ce qui est juste. Et qu'en fait, cette symbolique-là, c'est aussi de se dire qu'on se battra aussi pour le droit des femmes partout, tout le temps, en tout temps. Et ça veut dire que ça commence aussi chez nous. Et c'est un combat encore plus large. Le mot, c'est femme, vie, liberté. C'est femme, vie, liberté partout, et ça commence aussi chez nous.
Mais ce que tu disais, Camille, était vraiment intéressant, c'est si la société montre que ça lui importe, eh bien peut-être que nos gouvernants auront envie de... Mais est-ce que ça nous importe? Moi, je pose des questions. Est-ce que vous pensez que la société française se soucie du sort des Iraniens et des femmes iraniennes? Je crois connaître la réponse, et je crois que elle est pas la
après,
réponse.
Après, tu vois. Faut pas non plus négliger.
Que vous,
c'est vrai.
Ouais, ouais.
Non, mais je pense que évidemment beaucoup de monde se soucie et ne trouve pas ça normal ce qui se passe, et c'est normal des milliers de morts. Enfin c'est et une répression brutale. Voilà. Je pense qu'il faut pas négliger l'impact que même le moindre geste et même la moindre vidéo d'actrice peut avoir en Iran. C'est-à-dire que
y a ça aussi.
Même si Internet est coupé là-bas, il y a quand même des
choses qui passent.
Il y a toujours. Enfin, ce n'est presque plus possible de vraiment verrouiller la diffusion des messages. Et je pense que les Iraniens ne savent pas forcément qui est Juliette Binoche, mais par contre, de savoir qu'une actrice française et fait ça, et que ça a généré des... Enfin voilà, et tout ça peut être très très fort pour elle, quoi. Ça peut être, en fait, ce qu'on vit est là...
Se sentir soutenu, c'est énorme la force que ça peut donner. Alors ça peut paraître anecdotique, et évidemment, mais de se sentir soutenu dans des combats qu'on mène partout dans le monde, ça donne aussi la force à ces femmes de se battre sur le terrain. Et le but, c'est pas du tout de prendre leur place, mais c'est au contraire, et de se mettre en valeur que ce qui a pu être reproché aux actrices sur Twitter, mais c'est plutôt de se dire on est avec vous, on est avec vous partout à travers le monde, vous êtes ce que vous faites est juste et extrêmement et immensément courageux, et on est à vos côtés aussi avec autant d'impuissance qu'on peut porter, mais on sera là toujours, et vous êtes du côté de ce qui est juste.
Vous allez voir qu'il y a encore du travail. Yaori, je ne m'en prends pas à toi, mais je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu exprimes dans le chat, donc je le dis. Yaori qui écrit « Non, les Français ne s'en soucient pas puisqu'ils n'ont pas la prétention de savoir ce qui est mieux pour les autres pays. » Donc là, ça s'appelle du relativisme culturel, en mode ça se passe dans un pays qui... Voilà, c'est un pays qui n'est pas le nôtre, donc on n'aurait pas le droit de dire que ce n'est pas bien. Je suis désolé, mais tirer sur des femmes dans la rue parce qu'elles manifestent pour un minimum de liberté, de pensée, et puis d'être, je suis désolé, mais je pense que même en tant que Français ou d'habitant du Liechtenstein, ou je pense que de n'importe quel être humain, je pense qu'on a le droit de le dire, et de le dire haut et fort. Donc ça s'appelle du relativisme culturel, ça veut dire bah oui, c'est pas chez nous, donc on n'a pas le droit de... Bien sûr qu'on a le droit, je pense qu'on a même le devoir de le faire.
Oui, et puis ça pose... Enfin, c'est tous les débats sur l'ingérence. Je pense aussi qu'en France, on a un débat conflictuel, effectivement, sur le voile, en tout cas, qui a agité les débats. Et que il y a effectivement, ça ne devrait pas y avoir de débat à mon sens, mais ça c'est mon opinion personnelle. Mais du coup, les gens vont un peu à reculons, puis ça touche à la religion aussi. Attention, on n'a pas le droit d'interférer, liberté de religion. Enfin, je pense qu'il y a un micmac qui rend effectivement, mais je pense que c'est là où il faudrait avoir, enfin. Que la situation iranienne doit être claire. Des femmes se font tuer dans la rue pour défendre un droit.
En fait, c'est simplement, en une phrase, c'est la liberté des femmes de choisir.
Exactement.
Elles se battent pour ça.
C'est ça.
Mmh. Et c'est ce pourquoi on doit se battre aussi en dehors de leurs frontières, c'est-à-dire aussi
chez nous. Mais j'ai pas vu de grandes prises de position politique de
c'est-à-dire
qu'il y a eu les
il y en a pas eu je crois
non, ou alors il y en a eu
de la gauche, je sais pas si vous avez suivi la marche, il y a eu un grand ça fait beaucoup de bruit sur Twitter. Alors Twitter, on a l'impression que c'est le monde entier, et en même temps c'est
tu parles de celle où Sandrine Rousseau a été sifflée
et pas mal d'autres représentants politiques de la gauche où elle s'est fait siffler parce qu'elle rappelait quand même ça, elle rappelait cette idée de dire bah en fait il faut quand même que ce soit, on se bat aussi pour la liberté des femmes de choisir. Mais c'est intéressant parce qu'en effet ça posait la question du voile et les gens qui le sifflaient c'était un peu aussi de dire pour certains c'est un combat qui n'est pas politique donc qu'est-ce que vous faites ici, et pour d'autres c'était l'idée de dire mais vous étiez les premiers à entre guillemets ne pas vous battre contre le voile en tant qu'objet.
Alors, juste une parenthèse parce que certains pensent que je ne lis pas le chat, mais alors je le lis moins que d'habitude, mais j'essaie de le lire. Et certains pensent que je n'ai pas vu que Annie, qui est une vieweuse qui soutient beaucoup cette chaîne, a offert 200 abonnements ce soir, 300 à la chaîne. En fait, je l'ai vu et j'en suis très touché, même ému et un peu gêné. Mais je sais aussi qu'Annie est quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle d'elle. C'est quelqu'un de très très discret. Et donc en fait, Annie soutient cette chaîne et ce qu'on fait ici, exemple, les échanges qu'on a, mais elle n'aime pas qu'on le dise.
D'accord.
Donc c'est très difficile parce que du coup, en le soutenant, ça se voit parce que c'est public, mais elle n'aime pas trop qu'on en parle. Donc en fait, je le sais, je le vois, je lui envoie énormément de messages, mais je le fais pas trop pour l'embêter. Donc je vous lis. Non, c'était mignon parce que dans le chat, il y a plein de gens qui disent Samuel, il faut que tu n'as pas vu. Ou même des gens Jérôme, dis à Samuel que. donc j'ai vu. Donc
on dit quand même merci Annie, on n'en parle pas
Annie,
trop.
Ouais, discrètement,
c'est bien généreux, c'est humble en plus.
C'est très gênant parce que du coup je veux pas mettre, je veux pas trop mettre la pression sur Annie et du coup, mais vous êtes tellement en parler que vous puissiez passer à autre chose dans le chat, je le dis. Donc merci à vous de me le signaler. Je l'avais vu et Annie, un grand merci de ton soutien. Voilà. Quelle heure est-il, je regarde pour pas vous aller trop longtemps. Ah, 23h, ah quand même.
Ah quand même.
Et moi j'ai un train à 7h, donc je vais rester très très longtemps avec vous, mais en fait c'est terrible parce que j'ai envie de rester toute la nuit.
Et ça c'est intéressant parce que sur Twitch le temps passe très vite, mais parfois il passe encore plus vite parce qu'on passe une bonne soirée et que les échanges sont riches. Et là je trouve que ça passe très 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 vite ce soir.
Mais oui, on pourrait encore, on se censure tellement.
Moi je me demandais si t'allais même pas réduire le programme, c'est-à-dire que là, c'est 5 thèmes énormes, hyper
En fait, c'est vrai que ces dernières semaines, je mettais même 6 thèmes, et là, je me rendais compte que souvent, j'enlevais.
On risque de chanter le dernier quand on fait ça.
Mais là, il nous reste le dernier, mais je pense qu'on va passer moins de temps sur Elon Musk sur la question environnementale, que sur la question des femmes.
Sur ces deux sujets-là,
Donc on va quand même, on va finir. Ça va être notre thème de conclusion. Donc Elon Musk pour pouvoir libérer notamment Camille qui a un train.
Non, mais pas de soucis, ça me fait un train.
C'est pas vers l'ouest parce que je prends un train demain aussi vers l'ouest. On va se retrouver à la gare. Si c'est vers l'ouest.
Non, je vais à Montsartou. Vous connaissez pas cet endroit. C'est à côté de Cannes. Voilà, okay. Pour le festival du livre, c'est très rigolo. Okay. Donc, je pars à 7h demain matin. J'ai pas encore fait ma valise. Mais je dors pas beaucoup. On en parlait juste avant. C'est marrant de notre sommeil antenne. Et je suis vraiment la mamie du groupe parce que moi, si je dors pas 7 à 8 heures, je ne suis pas fonctionnelle. Et eux disaient non, mais moi, je bois des cafés en 3 heures, je me lave à 2 heures, je travaille, c'est hyper bien. De 3 heures à 5 heures du matin, je sais qui c'est. Fou.
Ça, c'est Samuel.
Alors, si ça peut te rassurer, Camille, je crois que plus on vieillit. J'ai lu un truc scientifique là-dessus et moins on a besoin de sommeil.
Mais 3 heures,
les nuits,
je pense que
c'est un truc aussi d'âge.
Oui, mais je pense que c'est aussi.
J'ai hâte de vieillir dans ce cas-là.
Pas seulement.
Mais ça dépend des individus.
Tu verras, Camille, dans quelques années, tu feras comme nous, tu dormiras 3 heures par nuit et tu seras en pleine forme.
C'est moitié moins, c'est même 3 fois moins que ce que je t'ai habitué à faire.
Donc voilà, mais il y a quelques années, je dormais plus que ça. Quoi.
C'est vrai qu'après, on a le temps de faire plein de choses, c'est trop bien.
Surtout
c'est hyper injuste, vous avez plus de temps de journée.
Surtout quand on fait des trucs sympas comme ça. Moi, je ne le répéterai jamais assez. Je trouve que cet outil est magnifique, ne serait-ce que pour créer ces moments où, ensemble, avec pas de limite de temps et aussi avec une communauté avec laquelle on échange, qui revient malgré les coupures électriques. On arrive à échanger, et on sent qu'on pourrait parler comme ça jusqu'au bout de la nuit. Bon, après, il faut parfois un petit peu dormir. Donc, Elon Musk, trop d'annonces. Pourquoi ? Parce que il a annoncé plein de choses ces derniers jours. Un plan de paix pour l'Ukraine. Voilà, il a dit mais moi, je sais ce qu'il faut faire pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est simple. Il fait ça. Il a proposé un plan de paix pour l'Ukraine.
que certains ont qualifié d'assez pro-russe, en fait, en tout cas reprenant des éléments de langage de la Russie. Adresse. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pris par les Ukrainiens, qui ont réagi très vivement, au plus haut niveau, jusqu'au président Zelensky, je crois, en disant « ton... » Ah oui, oui, d'ailleurs.
Il a fait un sondage.
Ouais.
Vous préfériez le bon Elon Musk ou le mauvais Elon Musk?
Je me rappelle d'un diplomate ukrainien qui, en termes peu diplomatiques, lui a dit « fuck off », en fait.
Oui,
ça c'est clairement, sur Twitter. Voilà. Un ambassadeur ukrainien. Donc il y a eu ça, c'est pas tout, il y a ce feuilleton Twitter pour le coup où il y a quelques temps Elon Musk a dit bah, je vais racheter Twitter, a proposé un prix et puis quelques jours après a dit non en fait ça va pas être ce prix là parce qu'en fait je viens de découvrir, il est pas très bien informé, qu'il y aurait plein de faux comptes et donc du coup ça vaut pas ce prix là donc bon, à ce niveau là de pas s'être renseigné avant c'est un peu problématique mais bref, et puis hop rebondissement cette semaine il a dit non finalement je vois que le procès qui arrive avec les dirigeants de Twitter ça va me coûter une blinde donc finalement je veux bien acheter à ce prix là et vous me disiez qu'il y avait un autre épisode
oui là c'est il a aujourd'hui encore rétro-pédalage
oui c'est en fait
il veut plus acheter
il veut pas montrer l'argent en gros ouais. Mais du coup
la
justice dit on va si vous réglez pas d'ici le 28 octobre, on va aller au procès.
On va aller au procès.
Voilà.
Et puis, il a aussi annoncé cette semaine, il a présenté un nouveau robot, un robot qu'il qualifie, lui, de révolutionnaire. Ouais. Alors, pas tellement pour ce qu'il peut faire aujourd'hui, parce qu'en gros, il sait à peine marcher et à peine serrer un truc, mais il a dit que bientôt, ce sera énorme. Il pourra cuisiner à notre place, jardiner à notre place, enfin, faire plein de choses à notre place. Et il dit que c'est un truc qui vendra pas cher. Enfin, pas cher aujourd'hui, il dit 20 000 $, il dit moins cher qu'une voiture. Et ça va révolutionner notre vie. Et il dit, il y aura plus de pauvreté dans le monde grâce à mon robot. Bon, et à un moment on se dit c'est pas un peu trop quand même?
Ouais. Mais
voilà, c'est la question.
Après il a toujours fait ça, c'est-à-dire que
il y a pas quand même une inflation dans le personnage.
Plus avant. D'accord. Elon Musk, Elon Musk dans le monde de la tech on le connaît depuis un peu plus longtemps que le grand public. Il a commencé vraiment à émerger sur les grosses histoires et avec Tesla aussi qui est sorti, mais c'est vrai qu'il a toujours été comme ça. Il y a une légère augmentation quand même.
Ouais. Et mais il y a le coup de poker permanent, quoi. De toujours essayer de faire des coups, de se dire ouais. Ah, il pense que c'est pas capable, là, moi je vais y arriver, et de faire plein de trucs. Et
parfois ça marche. Sur le marché des lanceurs spatiaux, c'est quand même un mec qui arrive il y a quelques années dans une grande réunion de tout le raout de l'espace mondial avec tous les grands constructeurs de fusées, et il arrive et il dit dans 10 ans, je vais tout casser. Ouais. Et je vais dominer ce marché. Tout le monde lui rit au nez et il a réussi.
Il le fait,
donc
ouais.
Parfois, ouais. Donc c'est.
Il le fait aussi par.
Ça marche.
Par les milliards et par le réseau qu'il a et par tout ça. Je pense que c'est pas non plus que du talent et l'intelligence qui sort d'une part. Enfin,
ouais.
C'est certains privilèges.
Ton avis là-dessus ? Parce que moi, parfois, sur lui, je lis. Ah, mais en fait, c'est pas le génie que certains veulent décrire, notamment ses fans, parce qu'il a des fans. C'est surtout un businessman qui fait travailler les gens pour lui.
Oui, mais c'est.
Ouais, moi,
c'est...
Ouais, en fait,
il y a du génie.
Mais c'est complexe parce que par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure sur la sobriété et sur l'environnement, il a quand même. Fait la promotion de la voiture électrique. La voiture électrique ne résoudra pas tout. Mais il a quand même dit, OK, il y a un problème avec l'essence et les carburants fossiles. On va passer à l'électrique et je vais vous le montrer qu'on peut le faire à une échelle comme aucun constructeur ne le fait encore. Et au début, les gens ont des doutes.
C'est vrai.
Et en fait, bah, il déroule Tesla, qui reste des voitures très chères, qui pose d'autres problèmes en termes de minerais, en termes de consommation électrique aussi, parce que voilà. Mais néanmoins, il y en a aussi qui sont très fans d'Elon Musk, il a vraiment beaucoup de fans, par son côté, genre, bah, c'est grâce à ce solutionnisme technologique que l'écologie va avancer.
C'est vrai.
Ce qui pose des tas de questions et problèmes aussi.
Ouais.
Hein, mais, et donc, c'est un personnage qui est vraiment très complexe, avec des choses... qu'on peut critiquer dans tous les sens, mais aussi des choses qu'on pensait pas possibles et qui vont peut-être aussi dans le bon sens. Mais
ouais, juste quand même, si on regarde l'impact d'Elon Musk juste sur le monde, quand il fait une fusée, je sais, là il est trop tard pour que mon cerveau se rappelle des chiffres, mais je fais confiance au chat, vous étiez trop fort. Sur l'impact d'un aller-retour en fusée, ce que ça a, c'est la consommation de je sais pas combien de foyers de Français pendant 90 ans, enfin c'est hallucinant.
Ouais.
Donc juste en vrai,
oui.
De faire des voitures électriques, mais il faut des voitures électriques aussi parce qu'il y a un marché émergent, qu'il y a un marché qui va arriver, qu'on sait qu'il y a des lois qui sont en train d'être prises en ce moment sur l'interdiction de la voiture thermique d'ici quelques, enfin hydrocarbures d'ici quelques années. Si on parle de 2035, donc il se dit bon bah il y a un marché, j'y vais aussi. Ouais. Moi je vois surtout quelqu'un qui a beaucoup d'ego et que aujourd'hui quand on est milliardaire, en vrai, on fait quand même vraiment partie du problème. Et je pense, et tant pis, je vais me faire critiquer, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus qu'il y ait des gens qui soient milliardaires quand il y a des gens qui meurent de faim. Enfin, il y a aussi cette question-là qui pose une question éthique. Et je ne sais pas si l'impact global qu'il a sur le monde est vraiment le bon, par l'image aussi qu'il crée, cette image de réussite, en fait, il va créer une envie de plein de gens de posséder autant que lui, oui. d'être aussi riche que ça, et il véhicule.
Et c'est de la prédation. C'est de la prédation.
Voilà.
Je donne des arguments contradictoires dans le chat, parce que c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'il a aussi ses partisans. Certains rappellent qu'il a utilisé et inventé la fusée réutilisable. Donc bon, non mais
combien de
le carburant n'est pas
réussi, et Grim FR qui dit c'est faux sur la marche sur la voiture électrique, il y avait pas de marché avant Tesla, il a quelque part aussi créé le marché.
Ah oui, si justement je dis il a créé le marché, donc c'est ce que je voulais dire dans le sens
il a acheté
en tout cas il voit qu'il va y avoir de l'argent à se faire, c'est surtout ça que je voulais dire.
Je veux faire l'avocat du diable parce que je suis vraiment pas un défenseur d'Elon Musk, ceux qui regardent mon émission savent à quel point je le défonce à chaque fois que je l'ouvre la gueule.
Ah ouais,
mais il y a quand même des choses à dire. C'est de toute façon on peut se poser la question, est-ce qu'on peut être un génie sans être quelqu'un de puant, et il y a plein d'exemples. Steve Jobs, etc. Est-ce qu'on peut réussir à faire certaines choses sans avoir un ego complètement
démesuré ? Une forme de mégalomanie, quoi.
Par contre, je te rejoins tout à fait sur le modèle que ça projette. Ouais. Je te rejoins pas forcément sur le côté milliardaire, parce que là, il pourrait y avoir débat. Mais par contre, le modèle qui est calqué sur uniquement la puissance financière, on aimerait aussi que des petits garçons admirent Elon Musk parce qu'il utilise son argent pour vraiment faire des choses utiles. Moi, je pense quand même plus que les fusées, même les voitures électriques, ce qu'il fait marcher le marché de la batterie, qui peut offrir un certain nombre de solutions écologiques, parce qu'on sait que la conservation de l'énergie est quelque chose de complètement vital au système. Aujourd'hui, l'énergie, on ne sait pas la stocker correctement.
Oui, et puis il a ce projet aussi de que des maisons soient entièrement, enfin des batteries pour maisons qui seraient autonomes en fait. Mais
en fait, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il fait des choses bien, mais qu'il gâche tout avec un ego. Il est insupportable.
Terrible aussi. Enfin,
c'est fou comment le personnage ne laisse pas indifférent, parce que dans le chat, c'est presque deux camps en fait.
Mais sur la
fusée, je disais, bon, je citais un argument qui disait ouais, la fusée réutilisable. Quelqu'un me dit, bah, il a rien inventé. La navette spatiale américaine, c'était déjà un vaisseau réutilisable.
Et puis réutilisable de quoi ? Enfin, je veux dire, quand on voit le nombre d'émissions que ça a de gaz à effet de serre, heureusement qu'elle soit pas réutilisable. À la limite, au moins, ça veut dire qu'elle n'est pas, il y en a pas une deuxième prête à l'emploi. Enfin.
Mais par ailleurs, il faut pas oublier avec lui qu'il est porteur d'une idéologie libertarienne.
Ah oui,
c'est-à-dire que je me construis moi-même, je ne veux pas de limite de l'État, je veux faire des coups, je choisis le Texas parce que je peux défiscaliser mes usines et mes entreprises.
Pas de limite à la liberté.
Et ouais, pas de limite pas à la liberté.
Ce qui pose, ce qui inquiète d'ailleurs pour les utilisateurs de Twitter,
oui.
parce qu'on parle de ça,
ouais.
ce qui pose la question de Twitter. Pourquoi ? Parce que sur Twitter, il y a une modération qui existe, bon, qui est
défaillante.
Comme toutes les modérations. C'est compliqué la modération.
Celle de Twitter, elle est particulièrement.
Non, mais je pense que c'est vraiment compliqué une modération de qualité. Donc Twitter, elle est pas parfaite non plus. Mais le discours a priori de Musk par rapport à Twitter, c'est sur Twitter, si moi je deviens patron, on pourra dire tout ce qu'on veut. Au nom de la liberté, tout.
C'est un extrémiste libertarien.
Ouais. Twitter, Trump a été banni de Twitter par exemple. Oui. Que cet exemple, le jour où Musk possède Twitter, Trump y revient quoi.
Et ça, en fait, il a quand même eu dans sa carrière, alors soit des associés comme Peter Thiel qui est pareil, un autre mégalomane avec qui il a bossé sur PayPal il y a longtemps et qui s'est fait une fortune sur PayPal à la fin des années 90. C'est comme ça ça lui a permis d'avancer. Mais il a aussi, à des moments, il s'est rapproché de Trump par le côté extrêmement libertarien. On laisse les gens faire. C'est vraiment le laisser-faire à un point. Voilà. Et comment dire, on veut pas de limite à tout ça. Je dis pas, et par ailleurs, il a jamais supporté Trump autant. C'est pour ça qu'il c'est un personnage complexe.
Mais il a été très très proche aussi de l'administration Obama.
Oui.
C'est typiquement
c'est
le personnage
très opportuniste. Hein,
Alors, est-ce un bon joueur d'échecs, comme je l'ai lu dans le chat, ou quelqu'un à qui on a tellement dit qu'il était Iron Man qu'il joue le perso.
En fait, j'ai vraiment l'impression de voir Iron Man dans les films Marvel. C'est exactement
en
ça.
Fait,
je trouve des fois un peu pathétique quand même. Là, franchement, quand on lit sur Twitter ces trucs, des fois, c'est hallucinant. Quoi.
Bah, en fait, c'est ça. C'est le truc, c'est qu'il fait des trucs, moi, que j'estime bien. Je vais donner un exemple. Début de la guerre en Ukraine, il a livré effectivement du Starlink aux Ukrainiens et ça a eu un impact important.
Il en a parlé pour l'Iran.
Voilà.
Mais c'est pour ça que les Ukrainiens n'ont pas compris son plan, parce que justement, il était considéré comme pro-ukrainien jusqu'à sa sortie sur le plan de paix qui est pour le coup qui est très pro-russe. Et en fait, en Ukraine, Musk est passé de statut de héros à détester en 24 heures. Quoi.
Alors, juste pour... Il a livré... Moi, j'ai trouvé ça très bien. Mais derrière, il en parle. En fait, faire des choses bien, notamment avec son argent, faire bouger les lignes, on devrait lui expliquer que ça aurait encore plus de portée s'il fermait sa gueule.
Oui, mais...
Parce qu'il gâche tout, en fait.
Oui, mais vu qu'il a un des plus gros comptes Twitter mondiaux...
C'est ça, la question.
Que par ailleurs, et ça, pareil, je pense que c'est aussi de l'opportunisme, il est capable de manipuler les cours.
Bien sûr, il manipule
les marchés. Il a eu des enquêtes, ça, et que ses tweets, chaque prise de parole...
Notamment sur les cryptos. Hein,
alors, par sûr. Ailleurs, sur les cryptos, mais il y a aussi sur le... sur Tesla, quand il y avait eu. Enfin, en gros, il a réussi à manipuler les cours parce qu'il a.
108 millions d'abonnés.
Ouais, mais voilà. Et c'est. Et en gros, sa prise de parole sert son business.
Bien sûr.
Et je suis sûr qu'il le sait et qu'en gros, il y a aussi plein de choses qu'il fait. Parce qu'il veut encore grandir, quoi.
Et puis, bon, alors, parce que chaque fois, on dit oui, mais il ne faut pas oublier qu'il est dans le spectre de l'autisme, etc. Il y a plein de gens qui sont dans le spectre de l'autisme et soit qui vont prendre quelqu'un pour les assister. Il devait normalement avoir un contrôle de ses tweets qui était imposé par la SEC.
Ouais.
Il le balaye du revers de la main. Donc, le spectre de l'autisme ne peut pas être une caution pour tout ce qu'il fait. Ça serait trop simple de raisonner comme ça. Donc, mais ça devient fatigant.
Je t'interromps parce qu'on a, un raid. Alors, moi, j'ai pas eu d'alerte. Mais dans tous mes viewers, un raid, c'est très gentil. Un raid, non. Camille, tu vois ou pas ce que c'est?
Vas-y, dis-moi.
C'est super positif.
Non, c'est très bien les raids.
C'est un bon raid.
Moi, à la base, les trucs psychologiques, normalement, c'est très mauvais signe. Donc, j'ai envie merde. C'est parce que j'ai critiqué les millionnaires.
Le positif, c'est quand à la fin d'un stream, tu peux, d'un clic de souris, envoyer tous les gens qui te regardent sur une autre chaîne. C'est comme, alors je prends toujours cet exemple-là, à la fin du 20h de TF1, le présentateur dirait « Tiens, il y a un documentaire sympa sur France 5 et j'envoie mes 4 millions de téléspectateurs sur France 5. » Évidemment, ce n'est pas possible à la télé pour des raisons économiques évidentes. Ouais. Ici, c'est possible, c'est un outil magnifique. Là, on a eu un raid de Gaspard TV. Alors ça, c'est une très belle chaîne que je vous recommande d'ailleurs. Gaspard TV, moi je l'ai découvert il y a quelques semaines sur Twitch. Et donc, par un raid, justement, c'est moi qui l'ai raid.
Okay.
C'est un garçon, il navigue sur les mers du globe, il a truffé son voilier de connexions, d'agrégateurs de connexions pour pouvoir émettre d'à peu près n'importe où en mer.
Incroyable. Voilà.
Et donc il stream ses traversées, c'est incroyable, c'est Gaspard TV. Il est fiancé à une jeune femme qui a la même passion que lui, donc parfois ils sont ensemble. Je crois qu'il a une chaîne YouTube à la base, et puis il stream aussi. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a un contenu incroyable, c'est des images, parfois il est en train... Donc tu es sur internet, tu es sur Twitch, tu regardes l'actu ou tu joues, ou tu vois quelqu'un qui fait du gaming, tu vas sur Gaspard TV et il est en train de naviguer avec des dauphins
direct. Il vient de vendre son bateau.
Ah, rien.
C'est une autre aventure.
Ah, ouais. Voilà. Alors il va passer à Paris dans pas longtemps, Gaspard, il m'a dit ça. Bah voilà, les gens me le disent.
Il arrive à Paris.
Du 10 au 15 octobre. Je sais qu'il arrive à Paris parce qu'il me l'a dit et on va essayer de se voir et peut-être qu'il va passer à la maison.
Et la navigation sur le périph, c'est incroyable.
Ah mais c'est dommage, il va arrêter la navigation alors.
Oh, on n'arrête jamais vraiment.
Bon, en tout cas, voyant un petit peu le personnage que c'est, à mon avis, c'est vrai qu'il prépare une autre belle aventure. Mais voilà, Twitch, c'est fascinant pour ça.
Merci,
donc on a reçu les viewers de Gaspard TV que je salue du coup. Alors pour vous dire, là on est on a commencé à 23h, donc 3h36 de stream, et on a parlé de choses aussi diverses et variées que le boycott de la Coupe du Monde de football, le plan de sobriété énergétique en France, les 5 ans du mouvement MeToo, ça c'était très important, la révolte en Iran, et là on était en train de dire du bien et du mal d'Elon Musk.
Voilà,
pour résumer.
Oh, mais quel beau résumé. Waouh.
Y a un exemple dans l'histoire qui se rapproche vraiment de ce qu'on est en train de vivre avec Elon Musk, c'est Edison, Thomas Edison, qui... même les historiens aujourd'hui débattent encore, c'était d'abord un businessman ou un inventeur, il a commercialisé ben, les ampoules électriques, on sait que les ampoules électriques c'était le premier truc de l'obsolescence programmée, enfin voilà, des personnages multifacettes qui ont à la fois quand même fait bouger les lignes, et on peut pas négliger ça, l'électricité dans tous les foyers, bon... Peut-être qu'écologiquement, ce n'était pas le meilleur move à faire, mais on va dire que socialement, ça a amené aussi quand même.
Super non plus, hein,
oui, le feu de bois pour les particules,
c'est pas top non plus. Mais qu'est-ce que fait Elon Musk dans ce. Tu vois, là, ça, je comprends. Mm. Mais je ne vois pas en quoi il aide. Mais je pose la question. Peut-être que je ne connais pas tous ses business, mais pour moi, il aide les gens de sa catégorie sociale. C'est-à-dire qu'avoir une Tesla, ce n'est pas pour tous les Français, toutes les Françaises. En fait,
alors, oui.
Quand il dit je vais rendre une fusée sur la Lune, ce n'est pas non plus pour tous les Français, toutes les Françaises.
Oui, mais effectivement, tu vois pas tous ces
business.
Et
qui, pour moi, qui est intéressant sur la liberté, tu en parles de lui qui adore sa liberté. Et en fait, en philo, tu as plusieurs visions de la liberté. Et lui, c'est une liberté presque, enfin très épicurienne, qui est de dire un peu, ma liberté, c'est de faire ce que je veux quand je veux, de dire partout ce que je veux. Ok, c'est une acceptation de la liberté, mais en vrai, l'adage le plus connu, c'est que la liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres.
Bien sûr.
Et qui part du principe qu'on vit en société. Et que donc, du coup... Quand lui, il emmène des gens en fusée pour le fun, même pas pour découvrir d'autres choses quand il veut développer le tourisme spatial, c'est un impact tel sur l'empreinte carbone et sur, oui, sur la
atmosphère. C'est pas que ça. Hein.
Ouais,
non, mais en tout cas, il veut développer ça. Donc, que du coup, il empêche la hiérarchie. Je vais juste finir là-dessus. Mmh. Quand il veut développer ça, on est bien d'accord qu'il veut développer des fusées pour que des gens puissent aller voir.
Alors il y a de ça, mais c'est vrai qu'il y a un plan, il y a un plan parce que là du coup il ravitaille l'ISS aussi, enfin il va.
Ouais.
Et en attendant,
tu fais peut-être un mélange entre Bezos et aussi et les fusées
Camille,
Bezos
quand elle dit, qui ne s'adresse qu'à un public. Ça. Quand il dit je vais rendre mon robot là très populaire, tout le monde pourra se l'acheter, ça va être fin la pauvreté dans le monde. Ça va pas être cher, ça va être $20,000. Bah, il s'adresse qu'à un public quand même.
Bah, bien sûr, c'est pas cher, c'est pas 20 000.
C'est pas cher, $20,000.
Non, c'est l'iPhone peut-être. Mais
Après, pour rester strictement sur l'écologie, c'est pour ça que je parlais des batteries tout à l'heure. En fait, que ça soit le business de Tesla ou du robot, et on parlait tout à l'heure l'évolution, par exemple, des batteries dans les smartphones ont permis aujourd'hui un nouvel avènement dans la tech qui est l'efficience des processeurs, ouais, même sur les ordinateurs qu'on va brancher sur le secteur. Donc, faut pas sous-estimer ces autres business. C'est quelqu'un qui va toujours se la jouer trois coups d'avance, qui aime le scandale, qui aime la polémique, qui aime attirer ça aussi sert, ses ça détracteurs, sert. Ça le sert, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de faire parler de soi. Et encore une fois, je suis halluciné de défendre Elon Musk ce soir j'ai vraiment du mal avec le personnage parce que je déteste les gens vantards.
Moi, je trouve qu'il y a quand même une responsabilité sur qu'est-ce qui crée comme désir chez tous ces gens qui vont l'admirer. Du self-made man, de cette,
bah,
de cette
capitalisme
vision qu'il a,
sauvage,
de, voilà.
Ce
c'est vraiment le capitalisme sauvage. Et moi, quand je fais le lien avec le combat qui est le mien et j'espère de plein d'autres gens qui est cette urgence écologique, je sais l'incompatibilité profonde de ce genre de désir qui crée avec les limites planétaires. Donc du coup, de fait, même si j'entends qu'il peut peut-être avoir des bonnes idées parfois, j'ai quand même une réticence, tu vois, à ce qu'il peut porter. J'ai plutôt tendance à me méfier un peu de ce genre de personnes.
Camille, pour rebondir dessus, exactement sur ce que tu dis, il y a Defecator officiel qui est un garçon qui fait un gros travail de debunk, de lutte contre les fake news sur Internet, notamment sur YouTube et sur Twitch, qui écrit à propos de son plan de paix pour l'Ukraine. Il a clairement montré Musk il y a 3 jours qu'il s'exprimait sur un conflit auquel il ne comprenait rien.
Oui, ça va.
Quand on
ça
a une audience comme la sienne, on a une responsabilité.
Ouais, je suis totalement d'accord avec.
Et quand il a voulu aller sauver des enfants dans une grotte, je sais pas si vous souvenez de cette affaire.
Il se prend pour
Superman.
Pour Iron Man.
On lui a trop dit que il était Iron Man.
Il y a un truc qui m'inquiète dans ses projets parce qu'il est en gros, il aime se projeter dans l'avenir. Quoi. C'est non mais vous me comprenez pas. Moi, je suis en train de construire la suite de l'humanité. Et un de ses objectifs et de ses rêves de sa vie, c'est la colonisation de Mars.
De l'espace.
Bien sûr, on n'a pas parlé de ça, mais c'est un gros sujet.
Et en gros, il arrive quand même à faire revivre donc la conquête spatiale du XXe siècle, qui est un domaine que les États avaient désinvesti, parce que, pour des tas de raisons. Mmh. Et en gros, là, toute l'idéologie que sous-tend ce personnage et ces entreprises privées vont peut-être être à l'origine d'un événement qui va changer nos vies. C'est-à-dire que si on est capable d'habiter sur une autre planète, Vraiment, c'est un sujet pour l'humanité, mais à un point fondamental aussi. Et moi, le truc qui m'inquiète, c'est que ça intervienne par lui et par ses entreprises, même s'il est très très fort technologiquement, qu'il invente des solutions. Je ne suis pas sûr qu'il fait preuve d'une grande responsabilité pour l'humanité et qu'on devrait lui laisser les clés d'un sujet aussi fondamental au fait comment on habite sur notre planète.
Je ne sais pas si vous avez noté Thomas Pesquet qui est parti avec SpaceX, donc le système d'Elon Musk pour la station ISS. Il a eu cette petite phrase sur Elon Musk en disant « c'est pas lui qui décidera si on va sur Mars ou pas ». Il fait les vaisseaux, ils sont très bien, mais c'est quand
Elon
même
Musk,
les gouvernements.
Mais je pense qu'Elon Musk, il a envie de décider.
Et il aurait envie. Et aujourd'hui, et c'était intéressant la réaction de Thomas Pesquet là-dessus, parce qu'elle a presque été un peu brutale. Pense que ça agace aussi ces milliardaires, que ça soit Bezos, que ça soit Elon Musk, qui est pris en charge et décide des objectifs de l'humanité.
Mais c'est l'argent qui décide à la place du peuple, à la base de la politique, et ça peut avoir tous les dévoiements qu'on connaît, mais à la base, c'est quand même la police, la gestion de la cité, la police avec un S. Du coup, c'est vraiment l'idée de dire que c'est l'essence du peuple qui s'organise et qui décide collectivement de quel choix on fait ou pas. Et que ce soit dans les mains de ces milliardaires-là, de savoir si on va ou pas défoncer les fonds marins pour faire des Tesla ou si on va coloniser Mars, ça pose des vraies questions. Et surtout, moi, je trouve que ce qui m'inquiète avec ça, je comprends l'intérêt et la science d'aller comprendre ce qui se passe en dehors de nous et de se penser dans le monde. C'est fascinant, c'est très important. Mais avec cette idée d'y aller, c'est aussi une démission de s'occuper de ce qui se passe chez nous. Et il a cette envie géante de dire on va continuer à être toujours dans ce progrès absolu et on ne remettra jamais en question... en fait, le principe de limite, on aurait pu parler aussi sur toute la question des limites de l'humain. Genre, je pense que c'est quelqu'un qui rêve de pouvoir se cryogéniser et de dépasser la mort.
Il est en train de... Avec
voilà,
le,
et bah, moi,
rolling,
ça, c'est une incapacité de comprendre la limite.
Il veut mettre des puces dans les esprits humains pour augmenter notre cerveau, en fait. Et ça fait partie... Non, c'est Neuralink, je crois.
Neuralink,
ouais. Ouais, il y a quand même, effectivement...
Pour lui, on va sauver le monde par la technologie, on va échapper à toutes les lois qui sont celles de la nature. Sauf que précisément, dans la vie, on doit faire avec une seule composante, ce sont celles de ces limites qui nous a été données par les ressources qu'on a, par la nature, etc. Et du coup, quand on dit on va aller sur Mars, ça veut dire qu'on se désintéresse du fait que la planète sur laquelle on vit est en train de brûler et qu'il faut sincèrement qu'on se...
Je pense à Camille qui a son train demain. Moi, en général, je me dis qu'une hebdo Etienne, c'est autour de 3 heures, notamment par respect pour mes invités. En fait, c'était tellement prenant ce soir et tellement agréable de vous écouter qu'on est à 3h44 déjà de stream. Donc, en fait, comme je sens que sur Musk, on est encore parti, d'abord, si Musk invente un truc pour que je ne puisse plus dormir du tout et avoir un quatrième job.
Tu fais quoi ? Mais alors tu fais quoi ? Tu l'installes ?
Ben, s'il y a pas
mais là tu relances des questions.
S'il n'y a pas de conséquences sur ma santé, moi j'ai toujours plein de curiosité pour plein d'univers. Par exemple, dans le monde du gaming, par exemple, le monde du jeu vidéo. Moi j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo en 1988, quoi. Et donc je vois que aujourd'hui c'est d'une richesse incroyable. Moi si j'avais du temps, je jouerais aux jeux vidéo pour explorer cet univers. Bon, aujourd'hui je peux pas. Si Musk m'offrait une puce pour pouvoir gagner 3 heures par jour, c'est
alors que ce serait pas naturel. Tu vois,
je pense que je serais tenté de le faire.
Et pourtant,
j'ai lancé un sondage. C'est vachement intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit sur Musk pendant que vous parliez. Évidemment, un sondage d'une phrase, ça ne peut pas résumer l'échange qu'on vient d'avoir. Mais la question que j'ai posée est toute simple, et le résultat est intéressant, c'est Elon Musk, est-ce que c'est un personnage qui vous est sympathique, pas sympathique, ou je ne sais pas, sachant qu'évidemment, c'est réducteur par rapport à ce qu'on s'est dit, mais c'est quand même intéressant. Pas sympathique, 47%.
Ouais, majorité.
Sympathique, 16%.
Ah, d'accord.
Et je ne sais pas, 37%.
Ouais, c'est ça.
C'est très intéressant aussi. Il y a quand même beaucoup de gens.
C'est quelqu'un
qui trouve le personnage mystérieux et qui. Mais peut-être que notre échange de ce soir a contribué un peu à nourrir cette réflexion. En tout cas, il ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Dans le chat, il y a 1 milliard de messages.
Moi qui le déteste, je me suis retrouvé à le défendre.
C'est
bien une
ambiguïté
dans ce
personnage. Oui, c'est fou.
Alors que juste, je voulais terminer parce que je pense que tu as complètement raison sur. Le problème, c'est qu'il est encore sur un vieux schéma d'ambition. Il y a beaucoup dans le chat qui ont dit « mais c'est mal d'avoir de l'ambition ». Non, non, non. Et puis, ça fait partie de l'humanité d'avoir de l'ambition. Mais on nous a fixé des curseurs d'ambition qui sont toujours les mêmes et qui sont de l'exploitation de la nature, finalement, et de la domination de la nature. Il faut aujourd'hui, on parlait du PIB tout à l'heure, fixer des nouveaux marqueurs. Et continuer à attiser l'ambition, mais l'ambition d'aller dans d'autres directions que celles qu'on emploie depuis 10 000 ans. Quoi. Voilà.
J'ai dit qu'on libérait Camille.
Voilà, on libère.
Non, mais tout va bien, tout va bien.
Qui travaille demain ?
Parce que, un peu demain matin.
Un petit peu.
Peut-être streamer,
tu streames,
mais pas le matin.
Faisons la pub quand même, prochain stream ?
Je sais pas, là, justement, moi, je fais un tout petit peu de jeux vidéo en stream. D'accord. Mais sinon, moi, c'est lundi matin.
Lundi matin, sinon...
moi, c'est tous les jours de la semaine.
La matinale.
La matinale de 8h à 9h30.
Qui s'appelle ?
Qui s'appelle Le Mug.
Le Mug.
Puisqu'on boit du café dans des mugs. Ou ça, thé,
je valide.
Une communauté.
Et bah, c'est une revue de presse, un peu comme Samuel Etienne, sauf qu'on parle un peu plus de tech.
De tech.
Voilà.
Et très gentiment, Jérôme me raide régulièrement. On parlait de raid le matin. Je récupère les viewers de Jérôme. Et puis, il faut que je vienne voir chez toi parce que je sais que
vous avez
installé
un
nouveau studio.
La porte est ouverte.
Tempo de la tech, c'est vachement intéressant. Et sachez que, pour remercier encore Jérôme, c'est que les streams que je fais dans les musées, la solution du son, les micros HF que j'ai trouvé, c'est grâce à toi.
Ouais, mais le landau, c'est toi.
Oui, la poussette de
la
stream,
poussette,
c'est
toi.
Mais les micros HF géniaux, incroyables de facilité d'utilisation, c'est Jérôme, parce que bon, il s'y connaît. Allez voir le Huffington Post, cet excellent site d'information, vous ne serez pas déçus. Voilà.
Oui, c'est vrai.
non, mais je le dis, je le penserai pas, je le dirai pas, tu vois, voilà, c'est juste comme ça. Et puis Camille, il y a mille merci.
Non, merci,
mais
à
ça
vous.
A été passionnant de t'avoir, quoi.
Voilà. C'est vrai que merci à tout le monde parce que
on s'est régalé,
ouais,
hein.
Bien,
ouais, je trouve qu'on s'est bon, ça a bien fonctionné tous les quatre avec le chat. Ce qui était très drôle, c'est que on a craché pour des raisons amusantes. Malo qui a pour le coup, sans faire exprès, débranché la multiprise au début. Et puis Mathieu, merci Mathieu, c'était super de t'avoir, ouais. C'était une grande première, Mathieu qui remplaçait Joe à la réalisation et qui a fait un super taf, et en plus je le voyais qui participait, qui écoutait vachement, qui était qui réagissait et tout, c'était
des
super agréable.
Je crois que j'avais un allié là sur Elon Musk, mais on n'a pas le droit de le dire.
Et ce qui est top, c'est que donc on a craché une deuxième fois, on a encore débranché la prise sans faire exprès, et à chaque fois vous êtes revenus, il y avait beaucoup de monde ce soir. Donc il y a eu du F5, il y a du retour, donc merci. Et puis je vais encore la gêner, mais Annie, merci, parce que voilà, Annie a encore beaucoup soutenu ce soir. Merci à tous ceux qui ont sub, qui sont abonnés, qui ont envoyé des beats. Je remercie très très peu dans ces émissions où je suis beaucoup vers les invités que j'écoute et un peu moins sur le chat que le matin, mais vraiment du fond du cœur, merci. On va faire un raid dans un instant. Juste un petit retour sur mes amis de Logitech, parce que ils m'ont prêté ce micro ce soir. J'en avais 4 d'habitude, il y en avait un, Joe, qui est parti streamer ce week-end, a emporté un micro. Donc ils m'ont prêté celui-ci. Donc ils voulaient savoir un peu mon retour. Donc moi, je me suis écouté pendant 3h49 là. Ben, je suis assez content en fait.
Okay.
Voilà. Je trouve que on va pas parler de marque, mais voilà, il a un rendu un peu naturel, peut-être un peu numérique, peut-être un peu métallique, mais assez naturel, voilà, qui est pas désagréable. Qu'est-ce que
en tout cas, bah, après le son, il faudrait que je réécoute,
ouais.
La finition, parce que c'est important,
oui,
aussi, hein, la robustesse et finition,
ouais.
Bon système de bon, on va faire un test en direct.
Voilà.
La fixation
c'est,
XLR
c'est
est bonne.
C'est français, Logitech, c'est français.
Non, c'est suisse.
C'est suisse, c'est suisse.
Ouais.
Ah, c'est suisse.
C'est suisse, ouais.
Okay. Bon, en tout cas, voilà, je suis content. Moi, je suis un peu maniaque du son après des années de radio. Et là, je suis assez content. Donc, merci du dépannage. C'est le Logitech Blue Sona. Voilà, voilà, qui existe en blanc et en noir. J'ai pas voulu prendre blanc pour faire genre. Vous avez vu, ouais. J'ai un micro blanc. Ça faisait un peu genre.
Bon, oui, passer, tu te démarquais.
Ouais, je me serais un peu Elon Muskuisé, je trouve.
Oui, oui, voilà.
Mais on va faire un raid maintenant. Donc c'est nous qui allons faire un raid, Camille.
Bien.
Donc mais dans ces cas-là, bah, on fait comme d'habitude. Vous me proposez maintenant dans le chat des noms, des destinations.
Ah ouais, tu fais des raids démocratiques, toi.
Ah, toujours.
Ouais. Ah, ouais, ouais.
En fait, c'est pas des votes, mais je dis aux gens, bah, proposez-moi des streamers, des streameuses. Alors, toujours un peu la même chose. Parlez-moi de gens qui ont un contenu intéressant, qui sont en direct maintenant et qui n'ont pas encore forcément des grosses communautés, qui n'ont pas encore beaucoup de viewers. Un travail qui mérite d'être découvert, quoi. Moi, j'aime bien cette idée de petit coup de pouce. Et Annie qui vient encore d'offrir des abonnements à la commune. Merci Annie. Donc n'hésitez pas, je regarde. Zerator par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est pas un petit streamer, mais je le vois dans le chat. Et si Jérôme, toi tu vois dans les propositions quelqu'un que tu connais, que tu trouves intéressant, on fait le raid.
Ça va vite,
là. On est en train de regarder. Tiens, bah voilà. Ah bah je vois par exemple, il y a une proposition intéressante. Je vais regarder. Dans la lumière de la musique, mais Jérôme, si tu vois quelque chose, quand je me mets dessus,
ça va trop vite pour moi. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde dans mon chat.
Alors, attends, j'ai vu une proposition là. On parle de chansons. Alors il faut que je trouve la. Parce que du coup, je vérifie bien sûr où j'envoie les gens. Il ne s'agit pas d'envoyer un peu au hasard. Donc je mets en général. J'envoie une musique. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, ça me plaît. Ça me plaît ce que je vois là. Ok. Alors je vous lis quand même un petit peu. Ah, j'ai trouvé une destination qui est pas mal. Je trouve que je vais rester sur ça. Écoutez, là, j'ai une proposition dans le chat. On est dans l'univers de la musique. C'est une streameuse. On est en France. Parfois, la musique, ça nous emmène ailleurs. Je vois 85 viewers. On est quelques milliers encore, là. Eh bien, on va... Donc, soyez cool, soyez chill, parce que parfois, un raid, ça fait un peu peur.
Ça peut faire voilà. un peu peur.
Donc, soyez sympa et curieux, comme vous l'êtes toujours. On est sur de la musique. Ça a l'air très, très chill, très sympa. Je me dis que pour entrer dans le week-end, c'est pas mal. Donc
elle joue en direct.
Hein ?
Elle joue en direct, c'est ça ?
Ouais, ouais. Voilà. Et donc là, on prépare le raid. Ça va partir dans quelques secondes. Ça, je trouve que c'est une fonctionnalité, mais tellement...
Ça, c'est... Alors, elle peut être détournée un petit peu de sa fonction, hélas.
C'est-à-dire
des raids négatifs.
Ah oui ?
Ah oui, du harcèlement à cause
des
raids.
Ah bon ? Oui, c'est pour ça que...
Oui, t'envoies du coup une communauté toxique chez quelqu'un, donc t'as un moyen de bloquer les raids.
Enfin, genre, pour moi, ça voulait dire ça.
Alors là, comme... Bon, là, non, la communauté ici est plutôt cool et chill, voire très, 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 et merci encore pour ce soir. Du coup, on n'a pas ce problème-là. Et donc, j'ai toujours ce petit message, parce qu'un raid, ça peut surprendre, soyez cool et sympathiquement curieux, mais il n'y a jamais de problème. D'ailleurs, on va pouvoir voir le résultat du raid. La chaîne s'appelle Soli, c'est une jeune femme qui est en train de chanter, de jouer, peut-être même de composer. On y va. Merci à tous. Soyez heureux. Rendez
merci
les autres
beaucoup.
Heureux autour de vous. Ouais. Bon week-end et merci à vous trois. Je me suis régalé. Et Mathieu, merci d'avoir été avec nous pour la réalisation. C'était un bonheur. Allez.
Et vous ne saurez pas qui mangera le petit morceau de sandwich.
Je pense qu'il va
ça
là.
Sera le mystère.
で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。で読み直している。